Donc, on va commencer cette journée donc, consacrée aux violences et contre-violences post-parenthèses coloniales. Donc moi, je voudrais dire que je suis très heureuse de retrouver Elsa, parce que j'essaie de calculer depuis combien de temps on ne s'était pas vu. Je pense que ça fait une bonne douzaine d'années.
On ne s'est pas vu ?
Oui, je crois. Enfin, je pense... Bon, ben, on en parlera après. Donc, oui, je pense, ouais, le temps passe très vite. Donc, cette journée... elle devait être introduite par Jean-Pierre Dauzon, qui est directeur scientifique de la FMSH, qui est celui qui soutient le plus l'activité scientifique de notre groupe, qui s'appelle Monde Caraïbes et Transatlantique en Mouvement, et qui est donc basé à la FMSH, et qui est ce groupe en partenariat avec l'UMR, je suis chercheur CNRS, donc l'UMR dans laquelle je suis. Donc je vais vous lire, parce qu'il me l'a envoyé ce matin. Donc je suis particulièrement heureux, donc vous imaginez que je suis Jean-Pierre, hein, heureux d'introduire, mais je me contenterai de quelques remarques. Cette journée d'études organisée par le groupe Monde Caraïbes et Transatlantique en Mouvement, dit MCTM, pour au moins deux raisons. C'est la première fois depuis que la FMSH accompagne ce groupe de recherche, c'est-à-dire je crois depuis 4 ans, ce qui est exact. C'est donc la première fois qu'il y organise une telle journée d'études à la FMSH, puisqu'effectivement, d'habitude, nous sommes plutôt à Paris Diderot pour des raisons purement de logistique. Et dans ce lieu que nous appelons le Forum, et qui, comme vous le constatez, est assez bien équipé en matériel d'enregistrement. Ensuite, cette journée d'études en ce lieu coïncide avec un événement important que nous n'espérions plus. Chère Christine, chère Béatrice étant la directrice de l'UNMR, et qu'il adviendrait, donc nous n'espérions plus qu'il adviendrait, à savoir la signature toute récente par le CNRS de la convention qui lie l'UMR Passage, donc mon laboratoire, et la FMSH pour faire exister et se développer au mieux le groupe MCTM. Alors ce n'est pas rien, car cette convention a mis, je crois, presque 2 ans pour être signée, ce qui est vrai. Nous avons rencontré énormément de difficultés pour arriver à signer une convention, somme toute très simple. Après ces deux remarques un peu formelles, mais qu'il me fallait faire, je voudrais en ajouter une autre, peut-être plus intéressante, qui touche à la raison pour laquelle il m'a paru important de soutenir ce groupe de recherche, et en particulier cette journée d'études, où sont mises en continuité et en lien violence et contre-violence, esclavagiste et coloniale, de part et d'autre de l'Atlantique, et plus loin du côté de l'océan Indien. Pour simplement évoquer cette raison, je voudrais revenir sur ce que j'avais dit à Christine Chivalon il y a 4 ans, lorsque je lui proposais de soutenir un programme de recherche dédié à la Caraïbe. Je lui avais en effet fait part, à partir de mon expérience à l'École des hautes études en sciences sociales et d'anthropologue en études africaines, je lui avais donc fait part de ma perplexité par rapport au fait qu'il n'y ait pas, précisément, à l'EHESS, de direction d'études dédiée au monde caraïbéen et bien sûr encore moins une chaire au Collège de France. Certes, en France, il y avait des chercheurs, au CNRS, à l'IRD, etc., qui travaillaient de manière tout à fait intéressante, importante sur ce monde caribéen. Mais manifestement, ce monde, cette terre culturelle, entre guillemets, comme on dénommait par ailleurs le monde amérindien, océanien, africain, indien, ce monde, pour des raisons qui demanderaient à examiner de près, ne paraissait pas devoir mériter une telle reconnaissance académique. Et on est sur des sociétés à fondement esclavagiste, bien évidemment, comme vous le savez. Je dis cela d'autant mieux que je m'étais efforcée, lorsque j'étais en charge du Centre d'études africaines à l'EHESS, de faire exister une direction d'études sur la Caraïbe, un effort qui n'a abouti à rien. C'était il y a près de 20 ans, et l'on est toujours dans la même situation. Cela me paraît une situation que je qualifierais non seulement de problématique, mais également de paradoxale, dans la mesure où ce monde caribéen, et c'est une chose dont j'ai pris moi-même de plus en plus la mesure, a été le lieu d'une production discursive, tout à la fois littéraire, philosophique, anthropologique et politique, oserais-je dire d'une épistémée assez exceptionnelle, une production discursive sur la condition noire, une épistémée articulée à des formes d'engagement et de militance qui ne s'est pas contentée de se référer à son propre espace géographique, à sa propre ère culturelle, toujours entre guillemets, à son pays natal, entre guillemets, si l'on me permet quelques allusions. À partir d'expériences particulières au monde, elle a eu bien au contraire une visée plus générale, voire plus universalisante, en traitant en tout premier lieu de l'esclavage et du colonialisme, mais également en faisant bouger les frontières les appartenances ou les modes d'identification convenus pour être un ferment de critique et de modernité émancipatrice. Il est pour moi un exemple assez remarquable que cette sorte d'anthropologie médicale que constitue le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, le discours antillais d'Édouard Glissant ou encore Peau noire et masque blanc de Frantz Fanon, tous trois pointant particulièrement les effets pathogènes des diverses situations coloniales, que cette sorte d'anthropologie médicale s'y infléchisse plus positivement ou plus politiquement en panafricanisme, négritude, projet révolutionnaire ou créolisation. En tout cas, compte tenu de cette très riche épistémée, compte tenu aussi de que la question coloniale est toujours d'une forte actualité, il me paraît plus que nécessaire que les études caribéennes accèdent à une plus large reconnaissance dans le champ académique que celle qui leur a été trop longtemps dévolue. C'est là le but que nous devons ensemble nous fixer. Mais je crois que la jeune association francophone des études caribéennes, qui organise son premier colloque la semaine prochaine à Bordeaux et que la FMSH soutient, est en train fermement d'y travailler. Alors la jeune association, ce sont des étudiants issus du programme France Caraïbes. Alors c'est moi qui avais trouvé cette appellation que je regrette beaucoup. Est un programme d'enseignement qui a lié et qui lie des étudiants de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Jamaïque, de la France, France métropolitaine si on se place du point de vue institutionnel des départements d'outre-mer. Et les étudiants font ensemble leur formation et vont chaque année de site en site pour être en immersion totale. Et ce sont donc ces étudiants issus de ce programme que nous avions fondé avec mon collègue anthropologue jamaïcain Barry Chevan, hélas décédé. Nous avions fondé ce programme en 2007, enfin il a démarré en 2007, et ce sont ces jeunes issus de ce programme, ces jeunes docteurs, qui ont créé l'association des études, l'AFDEC, Association francophone des études caraïbéennes, et qui fait son premier congrès. Et j'avoue que c'est du jamais vu, parce qu'il y aura une soixantaine de participants, ce qui ne s'est jamais vu en France, de caraïbanistes. C'est plutôt éclaté, ce milieu-là. Donc, c'est en octobre à Bordeaux, la semaine le 10 octobre, ou le 19 octobre. Voilà, donc je ne vais pas être plus longue. Je voulais faire l'introduction à la journée. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux dire quelques mots sur le thème de notre journée? Il était prévu que je dise quelques mots, mais j'ai peur qu'on soit trop long. Qu'est-ce que tu en penses?
Moi, vas-y, et puis je dirais juste un mot.
D'accord.
Trois,
d'accord. Bon, on a envoyé, on a distribué aussi le programme avec le topo qui était notre propos de cette journée, nous interrogeant sur la violence coloniale, situant cette violence avec sa naissance, qui est dans le premier, ce qu'on appelle le premier empire. Je me souviens quand j'ai commencé, quand j'ai été chercheur au laboratoire africaniste de Sciences Po, où mes collègues africanistes me disaient que je ne travaillais pas sur la colonisation parce que je travaillais sur l'Amérique. Donc c'était une aberration pour moi. Donc il y a une première colonisation, première strate, qui selon moi met en place une grammaire de la violence, une grammaire totale, qui est celle du dénuement total, de la une violence extrême et qu'on condense sous le terme de tabula rasa, la table rase. Est-ce que oui ou non, y a-t-il eu possibilité de se reconstruire après cette violence extrême qu'a été l'esclavage, la traite? Ensuite, deuxième épisode colonial, le deuxième strat, deuxième empire, qui commence avec le traité de Berlin, c'est ça, ou avant, avant avec l'Algérie et le traité de Berlin ensuite. J'ai un historien qui nous dira les dates. Et là, c'est une autre violence. Elle est issue de cette violence primordiale, mais elle laisse ce que Édouard Glissant appelait un arrière-pays culturel. Donc, s'interroger sur ces violences, c'est s'interroger sur la manière de résister à ces violences et peut-être en termes de contre-violence. Y a-t-il possibilité de voir dans cette riposte, dans ces résistances, quelque chose de l'ordre qui ne soit pas de la violence quand ces sociétés ont été fondées dans une violence que l'on peut dire fondatrice de ce qui va être issu de cette matrice originelle. Donc nous avions proposé de revoir un peu le tout Fanon, enfin, ou de se le réapproprier, avec cette problématique fondamentale que tout le monde, elle est familière à tout le monde dans les damnés de la Terre, avec cette proposition comme quoi l'anéantissement de la violence coloniale est dépendante un peu de la répétition de cette violence. Cette question, j'avais trouvé dans l'ouvrage Déjà ancien d'Achille Bimbé qu'elle était reprise de manière formidable, très riche, pour qu'il se demandait comment, si je me souviens bien ces termes, comment rompre le cycle et comment donner la mort à la mort et faire émerger la vie. C'est en ce sens que j'avais lu ces prolongements de sa lecture fanonienne. Et on va essayer de voir ces aspects-là au cours de cette journée. Ces ripostes, est-ce que c'est nécessairement une réappropriation des codes du colon? Est-il possible ou pas? Comment ces contre-violences, y a-t-il nécessité de violence pour lutter, pour résister, pour se maintenir? On voudrait aussi, c'est parce que j'y travaille beaucoup en ce moment, peut-être que j'ai un angle de vue vers la fabrication mémorielle qui est porteuse d'une très grande violence aussi, avec ces procédures de légitimation, des narrations, des récits, cette lutte dans le champ symbolique. Et est-ce que dans ce champ symbolique, ces violences qui ne sont pas forcément d'ordre physique, mais qui s'imposent et qui sont des manières d'opprimer, voir comment elles continuent et comment elles continuent un état de guerre, en fait. Un état de guerre qui se joue dans le champ symbolique. Et particulièrement, je voudrais mettre l'accent sur une polémique qui est passée pratiquement inaperçue, pourtant qui a fait l'objet d'ouvrages, les historiens, et Pierre Nora en tête, avec cet ouvrage qui a été publié aux éditions CNRS, où la mémoire des descendants d'esclaves est dite être une mémoire d'une humanité différente de la nôtre, ce qui introduit un nouveau différentialisme racial, ce qui me paraît être véritablement une violence extrême aussi dans le champ symbolique. Donc, pour terminer ces remarques, j'aurais aimer évoquer l'étude de Richard Burton qui date de 1997, qui sont sur des formes de résistance. Il a étudié énormément de formes de résistance au pouvoir dans le monde afro-créole. Pour lancer la discussion que l'on aura, j'espère, sur la contre-violence comme mode comme mode inévitable de défense, de refus, de combativité. Et il fait appel à un texte de Michel de Certeau qui n'est pas tout à fait le même. Je n'ai jamais retrouvé la version française de ce texte, il est en anglais, qui n'est pas tout à fait la même chose que dans Art de faire, la fameuse invention du quotidien, où avec sa distinction canonique, mais là c'est plus tactique et stratégie, c'est opposition et résistance. Et il dit donc, en reprenant Burton, reprenant de Certeau, que l'opposition se réalise depuis l'intérieur d'un système, ce qui ressemble un petit peu aux tactiques, mais c'est pas encore ça. C'est avec les armes et les concepts et dérivés de ce système dans lequel donc celui qui résiste est intégré, celui ou celle qui résiste. Donc on est à l'intérieur et avec une intériorisation, une incorporation des codes du dominant. Et la seconde stratégie, celle de la résistance, elle serait obligatoirement puisée à l'extérieur de ce système et avec puisant à l'extérieur les ressources de la rébellion. Donc, il le voit dans les sociétés afro-créoles, sont-elles ou non dans ou à l'extérieur d'eux. Et c'est à l'opposition, pourtant, qui va s'en remettre, malgré toute l'observation de toutes ces lieux de résistance, comme le Jean-Connou, par exemple, à la Jamaïque, comme on pourrait dire les danses que tu as étudiées, les danses de combat, tous ces lieux, le religieux, etc., et qui sont issus totalement d'une codification différente de celle issue du système colonial. Donc il dit qu'à de rares exceptions près, comme la révolution de Saint-Domingue, ces techniques, ces pratiques n'appartiennent pas à la résistance, telle que capable de se détacher du pouvoir qu'elle conteste et de la renverser. Et donc il va examiner tour à tour les systèmes paysans, je vous disais, les religions afro-caribéennes, le rastafarisme, le carnaval à Trinidad, le vaudou en Haïti, etc. Et il conclut sur l'existence de cultures antillaises en perpétuelle rébellion, mais dans l'incapacité d'affecter durablement le pouvoir contre lequel elles se rebellent. Et le radicalisme et l'utopie qui sont portées par les formes culturelles qu'il décrit, lui apparaissent dès lors être moins, je le cite, des expressions de résistance sociopolitique que leurs substituts, comme si les Antillais avaient préféré garder leur radicalisme dans le domaine culturel où il ne peut jamais menacer les structures de pouvoir ni attirer sur eux-mêmes de préjudice, tout en permettant, jour après jour, de poursuivre des fins pragmatiques d'opposition. Et cette idée du retranchement, du radicalisme critique dans le domaine culturel que diagnostique Burton, on va le retrouver chez de nombreux auteurs qui vont affirmer une dissociation entre le politique et le culturel dans l'univers caraïbéen, et que moi je vois plutôt comme l'expression la plus manifeste justement de cette dynamique à proprement parler politique et non pas culturelle des univers de sens caraïbéens. C'est une invention de résistance, de rapport au pouvoir qui tiendrait justement en raison d'une connaissance intime et qui me rappelle un peu ta notion d'urticaire. C'est une connaissance tellement intime du pouvoir, tellement intime des formes les plus violentes de subjectivation, qui consisterait, cette invention des résistances, à ne pas créer des structures d'un ordre commun et de laisser celui-ci à la sphère qu'il ne doit pas quitter, ce politique tellement qu'il fait mal, c'est-à-dire le lieu institutionnel véritablement. Et c'est là où se déploie forcément la puissance ordonnatrice, pardon, à laquelle s'oppose sans cesse la méfiance critique et le refus de cet ordre. Et c'est ce qui se trame dans la sphère dite culturelle, offrirait donc une toute autre dimension, celle d'agencement où se négocient sans cesse les moyens d'empêcher la centralité d'une puissance normative par la mise à disposition de registres identitaires pluriels, une diversité qui rend de l'autorité qui est présente partout, de façon violente même, mais en définitive nulle part, parce qu'elle dilue les effets de ce pouvoir centralisateur. Donc je vais en rester là. Et donc c'est une piste, hein, montrer que cette résistance peut se loger dans des formes inédites de rapport au pouvoir. Et je te laisse la parole, Elsa, et j'étais déjà trop longue.